Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Ce sont des questions fondamentales que se pose l'être humain et que se posent aussi les peuples. Et le Code Québec, qui est un livre extrêmement populaire, piloté par l'équipe de Jean-Marc Léger, le sondeur, a connu une première édition très, très populaire. Il y a même une version télédiffusée à Télé-Québec les vendredis soirs à 19h30. C'est animé par notre ami M.C. Gilles, Dave Ouellet de son vrai nom. Et là, on arrive avec une nouvelle édition du Code Québec où on sondage à l'appui, étude à l'appui. C'est extrêmement riche comme contenu. On explore les comportements des Québécois, les attitudes des Québécois. Et pour nous en parler de cette nouvelle édition du livre Le Code Québec, ben au bout du fil, on rejoint Jean-Marc Léger et son fils Philippe Léger. Salut vous deux.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bon, Jean-Marc, on va commencer avec vous. Écoutez, on est 8,5 millions de Québécois et dans le livre, vous parlez des 7 traits identitaires de l'ADN du Québec. C'est quoi ces 7 traits-là?
Parce qu'on a fait le tour, là, dans le fond, du Québec, puis on a interrogé les gens sur à peu près 5000 questions, moi, depuis 35 ans, okay, à tout égard, pour trouver, dans le fond, les questions où on mesure la différence. Il y a 3 facteurs positifs. Les Québécois sont des gens heureux, créatifs, et sont des gens qui sont fiers. C'est 3 traits de caractère qui nous caractérisent. Mmh. À l'inverse, on a 3 négatifs, Patrick. On est détaché. C'est-à-dire que c'est jamais de notre faute, là. Vous voyez, si ça va mal au Québec, c'est à cause du gouvernement. Si votre enfant va pas bien à l'école, c'est à cause du professeur. C'est très québécois, là. Et villageois. J'ai fait des entrevues un peu à travers le Québec, puis qu'à chaque fois que je parle le mot villageois, les gens se reconnaissent. C'est toujours Victoriaville contre Drummondville, le Saguenay contre Lac-Saint-Jean, ou Montréal contre Québec, là.
Les chicanes de clocher, là.
Des chicanes de clocher. Et la victimisation, qui est un facteur clair, fort aussi. Fait que détaché, villageois, victime. Et le 7e, plutôt neutre, consensuel. Ça, c'est dans la première version du livre, on a travaillé, comme vous l'avez mentionné, le « Qui sommes-nous ?». La deuxième version du livre, on a rajouté des chapitres sur « Qu'est-ce qui s'en vient ?». Où allons-nous? Comment les jeunes réagissent? C'est pour ça que Philippe est devenu auteur dans ce livre-là, parce que je voulais non seulement l'écrire de façon théorique, mais je voulais que ce soit vécu également. Et c'est là la nuance dans le deuxième livre où on travaille sur les milléniaux et l'autre génération, les Z.
Ben justement, on va parler avec votre fils Philippe, qui est aussi chroniqueur au Journal de Montréal. Dans le Code Québec, ce qu'on apprenait, c'est que les Québécois sont heureux dans la première version. Ils le sont encore, mais à cause de la génération Z, la génération la plus jeune, née entre 97 et 2010, ben eux sont moins heureux et ça baisse, disons, notre indice de bonheur. Philippe Léger, qu'est-ce qui fait que les jeunes, les Z, sont moins heureux que la moyenne?
Ben, Patrick, chaque époque et chaque génération a toujours ses défis, ses obstacles. Vous l'avez dit, là, chez les jeunes, sur le plan personnel, il y a une crise de santé mentale. Moi, je n'hésite pas à dire qu'il y a une crise de santé mentale. Quand on regarde les taux d'anxiété, par exemple, chez la génération Z, ça va frôler les 50 % de jeunes qui s'auto-diagnostiquent en disant qu'ils ont déjà vécu de l'anxiété. C'est important, c'est pas de le
diagnostic. Oui, et Philippe, je m'excuse de vous interrompre, un quart qui aurait été dépressif.
Exactement. C'est énorme. Encore une fois, c'est de l'auto-perception. C'est des jeunes qui disent qu'eux-mêmes ont déjà vécu ces sentiments-là. Et quand on regarde, c'est particulièrement élevé chez les femmes. Il y a une différence élevée chez les femmes, particulièrement chez les 20 à 29 ans. Et quand on regarde, c'est essentiellement le même phénomène qu'on regarde dans la littérature médicale. Il y a une étude qui a été faite récemment par l'Institut national de la statistique du Québec qui disait que le niveau de détresse élevé chez les jeunes secondaires augmentait de 20 % en 2010 à 29 % en 2016-2017. Donc, une augmentation de 9 % en 7 ans. Je ne sais pas si on peut concevoir une augmentation aussi importante que cela signifie dans la vie des jeunes, mais c'est énorme. À cela, on va rajouter la crise de la COVID-19 qui a des impacts monumentaux sur la santé psychologique des jeunes Z.
Et Jean-Marc Léger, il y a quelque chose comme aussi l'impact du numérique, des mondes virtuels, des médias sociaux sur l'humeur des jeunes, des Z nés entre 1997 et 2010.
Et c'est ça la démonstration qu'on fait. Le constat, c'est qu'ils sont plus stressés, plus dépressifs, les jeunes d'aujourd'hui. Mais la date de 2010 que Philippe a mentionné, c'est là où on voit un shift. Et la date 2010, c'est l'arrivée des médias sociaux. Facebook est arrivé en 2004, mais il a été très utilisé à partir de 2010. Ensuite, vous avez toutes les autres, là. Les Pinterest de ce monde, les Snapchat, les TikTok qui arrivent. Et il y a une relation de cause à effet. c'est que la vie que les jeunes vivent n'est pas celle qu'ils voient sur les médias sociaux. Ils se sous-évaluent. Et c'est difficile dans cette réalité-là. Puis on a fait de toutes sortes de sondages sur est-ce que vous voulez qu'on vous suive sur Twitter, pas sur Twitter, mais sur Pinterest. Est-ce que vous indiquez que vous voulez que vous être aimé? Est-ce que vous voulez avoir le plus d'amis possible? Est-ce que... Et là, tous les jours, il y a un stress de performance sur les médias sociaux qui se rajoute.
Philippe, allez-y, Philippe.
Voilà, il y a des, à 20 ans, il y a des stress qui sont universels, là, qui sont vécus par toutes les générations depuis longtemps. Quand on pense à des difficultés financières, par exemple, ou des doutes existentiels sur qu'est-ce que je vais faire dans la vie. À 20 ans, c'est normal qu'un jeune, je suis persuadé que la génération du baby boom à Jean-Marc ou la génération X à toi, Patrick, que vous avez vécu ces types de stress-là qui sont vécus depuis toujours, mais il y a un nouveau type de stress qui ont commencé à émerger dans les dernières années, qu'on mesure beaucoup en sondage. D'abord, l'impression, Jean-Marc le résumé, là, mais l'impression de mener une vie ennuyante. C'est quelque chose qui est extrêmement élevé chez les jeunes. L'impression également de mener une vie auquel le succès des jeunes, ben, il est relativement moins que les autres jeunes. Un rythme de vie effréné, manquer de temps, l'impression de rater sa vie. Donc, ce sont des nouveaux types de stress qui émergent dans la vie des jeunes qui n'existaient pas auparavant et qu'on peut croire qu'ils sont liés à l'émergence des médias sociaux.
OK, je vais citer, je m'excuse d'y aller sur les jeunes, mais c'est un pas, on va parler d'autre chose, là, Jean-Marc et Philippe, mais c'est un passage du livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Toujours les aides 97 à 2010, je cite le livre, « Ils préparent une révolution qui, de leur point de vue, ne peut attendre et qui sera tout sauf tranquille. » Qu'est-ce qu'ils veulent comme révolution, les jeunes?
Ben, c'est pour ça qu'on dit dans le livre, on passe de la majorité silencieuse, qui était notre génération à nous autres, aux minorités qui sont bruyantes. Parce que non seulement ils sont plus activistes, mais ils ont aussi le microphone avec les médias sociaux pour être capable de l'articuler, ça. Les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est changer. Par exemple, quand Philippe parlait de stress tantôt, il parlait de stress personnel, mais le changement climatique est un autre stress supplémentaire. Il y a plusieurs jeunes qui ne veulent même pas avoir d'enfants en disant « je ne veux pas élever un enfant dans ce monde-là ». Il y a un niveau de stress qui est élevé. Ça, c'est le côté négatif. Mais il y a des côtés positifs aussi à la jeunesse. Cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui est plus fière. C'est une jeunesse qui veut vivre des expériences. C'est une jeunesse qui a une relation à l'argent qui est très différente de la relation des aînés. Il n'y a pas juste des effets négatifs sur le Z, mais l'angoisse, c'est un facteur premier qu'on doit gérer à court terme, qui est amplifié par la pandémie, mais il y a aussi toute elle est plus éduquée, cette jeunesse-là. Elle est extrêmement dynamique, plus informée, plus ouverte sur le monde. C'est pas un livre sur les Québécois, on est bon, les ceintures vives, les ceintures fléchées. Oui. Le livre, ce qu'il démontre, c'est qu'on est ouvert, métissé, différent, ouvert sur le monde. Le débat sur les accommodements raisonnables, par exemple, n'est pas vu de la même manière chez les gens plus âgés que chez les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est un débat qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, Philippe a une chronique ce matin dans le journal là-dessus.
Ben oui, Philippe, parlez-nous, parce que vous chroniquez au Journal de Montréal, mais il y a, chez les jeunes, les questions d'identité, on va y aller avec les moins de 30 ans, disons, là, c'est pas du tout dans la mouvance identitaire, là.
Non, effectivement. Mais quand je disais qu'en début de l'entrevue que chaque génération fait face à ces défis, Jean-Marc parlait de la crise environnementale, l'égalité, l'inclusion, disons la montée des discours populistes, la montée du discours identitaire, c'est des défis politiques auxquels les jeunes qui font face, et certainement sur le plan identitaire, dans un certain discours, ben c'est essentiellement ce que je disais dans ma chronique, un certain discours plus défensif, plus apeuré. Sur la notion d'identité, ben ça attire pas beaucoup une jeune clientèle. Est-ce que le mouvement souverainiste, est-ce que le mouvement nationaliste souffre de ça présentement? Peut-être. C'est sûr que c'est sur ces questions-là, les jeunes se différencient fondamentalement, politiquement, de leurs parents. Quand Jean-Marc, on écrit dans le livre, c'est une révolution toute sauf tranquille. Je veux dire, les événements des derniers mois, des dernières semaines sur bon l'inclusion, le mouvement Black Lives Matter, les mouvements MeToo, on peut dire que c'était une révolution toute sauf tranquille. Il y a des mouvements, puis ils sont propulsés par une jeune génération qui prend sa place, qui prend sa parole, puis qui décide, surtout en raison de son poids démographique, là, le nombre ne ment jamais, donc il décide de prendre sa place, puis d'exprimer ses préoccupations dans l'espace public, puis essayer de changer les choses selon leurs préoccupations.
Jean-Marc, le livre est dédicacé à Marcel Léger, ancien ministre péquiste, ton père, et comme tu dis, mon père, mon associé, mon ami et mon héros. Marcel Léger a grandi dans un Québec qui commençait à s'affirmer. toi et moi, on a grandi dans un Québec où notre différence était, disons, un moteur politique. Et dans le livre, Le Code Québec, dans la réédition, on souligne que le Québec est de moins en moins différent. En tout cas, on est moins différent qu'on le pense.
Exactement. Ça, c'est vrai. Mais juste pour commencer, l'inscription que tu as mentionnée au début, mon père, mon ami, mon héros, ça vient du discours de Beau Biden, le fils de Joe Biden, en 2008. Okay. J'étais à la convention d'Obama, qui était élu comme président. Il présentait son père.
De cette façon-là.
Exactement. Beau Biden, c'est pour ça que c'est la journée aujourd'hui de parler de ça. Beau Biden est décédé du cancer un peu plus tard. Là. Puis ça m'avait tellement ému, cette phrase-là, que je l'ai repris pour le livre, surtout quand j'écris un livre avec mon fils. Là, c'est la même impression. Sur le propos de l'identité, c'est tellement vrai. L'identité québécoise, comme l'identité canadienne, est de moins en moins importante pour les jeunes générations. C'est des générations qui sont plus globales. Un jeune qui vit à Montréal achète les mêmes produits, écoute les mêmes films, va écouter la même musique que quelqu'un qui est à New York, à Paris ou à Tokyo. Les jeunes se mondialisent, ils ont accès à la même information. Il y a un côté négatif, il y a un côté positif de ça. Mais dans le livre, ce qu'on montre, c'est que la différence québécoise qui est importante l'est de moins en moins. Ouais. On se dilue, non pas dans le Canada, mais dans la collectivité mondiale.
Ouais, c'est un fait global, hein, que les identités nationales se diluent. C'est pas seulement l'identité québécoise, on va parler d'identité française, on va parler d'identité italienne. Ils ont tendance à tous se diluer au profit d'une seule. La conséquence à ça, c'est qu'on regarde en sondage, c'est que l'âge devient souvent significativement le facteur de différenciation envers les autres caractéristiques socio-démographiques. On a juste à penser au genre, au revenu, la région. L'âge devient le principal facteur de différenciation. Jean-Marc, quand il disait qu'un jeune Québécois a plus en commun avec un jeune français ou un jeune italien, encore une fois, que son aîné. C'est vrai, et c'est vrai pour toutes les identités, pas seulement québécoises, mais c'est sûr qu'en termes d'identité, on peut s'en désoler, là, mais l'identité québécoise en tant que telle, elle se dilue de plus en plus. Maintenant, quand on parlait de discours identitaire tantôt, oui, il y a un discours identitaire à droite, mais il y a aussi un discours identitaire à la gauche auquel les jeunes font face présentement.
Mais Jean-Marc, on parlait de votre père, Marcel. Marcel Léger a été ministre péquiste avec René Lévesque. Je me demandais, cet éloignement des jeunes de l'identité québécoise, de ce qui fait notre différence, c'est pas une bonne nouvelle pour le mouvement souverainiste, ça, à long terme.
Non, c'est pas pour rien qu'aux dernières élections, le Parti québécois a subi une raclée. Mm. Il n'est pas en symbiose avec la population du Québec. Mais c'est aussi vrai pour le Parti libéral, qui était son pendant, qui a subi aussi la pire raclée de son histoire.
Oui.
Fait que, vous voyez, ce sont les deux. Et là, tout d'un coup, Québec solidaire a grimpé. La CAQ également a grimpé. Les trois piliers de l'indépendance de mon père, c'était la langue, c'était le contrôle de l'État et c'était la haine des Anglais. Ça, c'est les piliers du mouvement souverainiste. La langue, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est acquis. Peut-être c'est dangereux, mais pour eux, c'est acquis. C'est même pas un débat quand on teste cette question-là. Le contrôle de l'État, ce qu'on veut, c'est le moins d'État possible. Et ensuite de ça, la haine des Anglais, ça n'existe plus. Cette haine-là, en disant que les Anglais sont contre nous, là, ça n'existe plus chez les jeunes. Ce discours-là ne rejoint pas les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, c'est comment ils peuvent conquérir la planète, comment ils peuvent vivre des expériences extraordinaires, comment ils peuvent réussir à vendre la nouvelle technologie partout dans le monde. Et ça, la souveraineté ne répond pas à cette question-là aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est que les souverainistes répondent à la question d'hier, alors que la dynamique a changé. Fait que dans toute la quête d'identité québécoise, il y a quand même des éléments qui nous différencient et qui demeurent. La créativité québécoise, par exemple. Des succès québécois à l'étranger. Là. Vous voyez l'histoire de Couche-Tard. Couche-Tard, c'est très créatif. Là. Ils ont réinventé le dépanneur, même si c'est très ennuyant, le dépanneur. Ce sont des gens créatifs. C'est notre créativité qui est allée à travers le monde, tellement que même le gouvernement français a eu peur de notre désinfection. Il y a des choses extraordinaires avec la jeune génération qui arrive. Et on en parle, Patrick, aujourd'hui, pour une seule raison. Puis les gens qui nous écoutent, c'est important. C'est que les baby-boomers ont dominé le Québec, ont imposé leurs valeurs durant 50 ans. Aujourd'hui, les milléniaux sont majoritaires en termes de nombre. Il y a un transfert de richesse qui est en train de s'opérer à cette jeune génération-là. Elle est plus éduquée et surtout qu'elle ne s'est jamais fait dire non. C'est l'enfant roi qui est maintenant au pouvoir. Et là, les milléniaux s'infiltrent partout. Ils prennent le contrôle des entreprises, des groupes sociaux. Et c'est pour ça que ça bouge au Québec. Il y a quelque chose de beau derrière ça, avec une bémol que cette génération-là, elle a besoin d'être accompagnée parce qu'elle a perdu ses repères.
Bien, c'est un livre fascinant. Merci de nous avoir parlé, Philippe et Jean-Marc Léger.
Au plaisir. Merci
à toi.
Salut. Ça s'intitule « Le Code Québec », c'est la nouvelle édition. Je vous le dis, si vous vous intéressez à notre société, à peu près tout est là-dedans. C'est quantifié. quantifié, mais aussi il y a des impressions. On cite, on voit des chroniqueurs ou cinéastes en passant par la musique. Et écoutez, juste finir là-dessus, il y a un chapitre qui s'intitule « Grand parleur, petit faiseur ». Ça parle des contradictions que les Québécois peuvent avoir. Par exemple, on priorise l'éducation. On va dire dans les enquêtes d'opinion que c'est très important l'éducation. Mais au Canada, on est parmi ceux qui décrochent le plus. Et Jean-Marc Léger cite quelqu'un qui répond à une enquête d'opinion de Léger qui dit « Et c'est fantastique, et il y a peut-être un peu du Québécois là-dedans, Québécois moderne. » Je cite « Je ne suis pas certain si je suis encore indécis. » C'est de la belle poésie québécoise.